DW. Droits et libertés.
Vous saviez que les femmes entrepreneuses ont moins de facilité à obtenir la confiance des investisseurs que les hommes ? Qu'une femme a plus de chances de convaincre des personnes d'investir dans son entreprise si elle est séduisante ? En 2024, les discriminations, parfois inconscientes, et les préjugés sexistes ont la vie dure en Allemagne. On en parle dans un instant. Et puis en seconde partie de ce magazine, nous irons faire un tour du côté de la ville de Rostock, en ex-Allemagne de l'Est, où de nombreux étrangers travaillent dans le milieu hospitalier. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. L'université de Saint-Gall, en Suisse, a publié une étude qui montre que les clichés sexistes ont la vie dure, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Lorsqu'il s'agit de lever des fonds pour leur start-up, les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes. C'est ce que constate l'équipe emmenée par le chercheur Robert Schneider qui a mené cette enquête. L'une des principales raisons de ce déséquilibre entre les sexes, c'est que, je cite, « près de 80% des investisseurs qui investissent dans ce type d'entreprise, les start-up en phase précoce, sont des hommes, aux États-Unis comme en Europe ». Il y a donc ce que le chercheur appelle des effets de réseau qui font que les investisseurs masculins ont tout simplement tendance à soutenir également les créateurs d'entreprises masculins. Et la différence n'est pas minime. Les hommes qui fondent une start-up reçoivent presque 50 fois plus de capital risque que les jeunes entreprises dirigées par des femmes. Un autre facteur de différence fait se hérisser les poils, enfin les miens. Les femmes créatrices d'entreprises obtiennent davantage de promesses de financement lorsqu'elles sont considérées comme séduisantes. Christina Diempuelo, qui est présidente de l'Association des femmes entrepreneuses allemandes, ne sait que trop bien, après de nombreux entretiens avec des entrepreneuses, que les entreprises dirigées par des femmes ont plus de difficultés à obtenir un financement. Pour Christina Diempuelo, les préjugés inconscients des investisseurs ne doivent pas être sous-estimés. Son expérience montre en effet qu'on pose d'autres questions aux femmes entrepreneuses qu'aux hommes. Elles sont remises en question de manière plus critique que leurs collègues masculins, notamment lorsqu'il est donc question de gros sous. Et cette expérience, Friederike Kogelheide de Bochum peut la confirmer. Elle a une start-up, Glimskin. La chercheuse a développé un appareil cosmétique électronique qui mise sur l'effet antimicrobien du plasma froid. Moi non plus, je ne suis pas certaine de comprendre ce dont il s'agit exactement. Mais la chercheuse le confirme, les fondatrices de start-up ont plus de mal que les entrepreneurs masculins à obtenir des financements. Dans la phase initiale de son entreprise, elle avait encore un homme dans son équipe. Il était seulement responsable du marketing. Et pourtant, les investisseurs masculins donc l'ont pris pour le patron de la start-up et c'est à lui qu'ils ont posé les questions sur les détails technologiques et pas à Friederike Kogelheide qui était présente alors que c'était elle qui avait développé l'appareil, pas lui. Les scientifiques se sont demandé comment les investisseurs masculins se comportent lorsque le même concept d'entreprise, exactement le même, leur est présenté par deux femmes différentes. Pour ce faire, ils ont mené une expérience auprès de 111 investisseurs en capital de départ masculins de Suisse et d'Allemagne. C'est ce qu'on appelle les business angels. Tous étaient expérimentés et ils investissaient dans du capital risque. La start-up qu'on leur présentait avait été créée 3 mois auparavant. Elle avait développé un algorithme à l'aide de l'intelligence artificielle pour détecter des tumeurs sur des images radio. Donc ça veut dire que pour les investisseurs, c'était une idée commerciale avec des débouchés concrets. La start-up a été présentée à un groupe d'hommes, dans un cas par une actrice séduisante et dans le deuxième cas par une actrice moins séduisante. Les investisseurs devaient évaluer la compétence professionnelle des femmes qui leur présentaient le projet et ce n'est qu'à la fin qu'on leur demandait à quel point ils trouvaient les jeunes entrepreneuses attirantes. Eh bien, les recherches ont montré que la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress, en même temps que de testostérone, qui est l'hormone sexuelle mâle, entraîne un comportement à risque accru, qui peut se traduire, comme dans ce cas précis, par une plus grande propension à investir. C'est-à-dire que l'actrice la plus séduisante avait 21% de chances en plus d'obtenir des investissements que celle qui l'était moins aux yeux des business angels. Pour éviter certains biais, les scientifiques plaident donc pour qu'à l'avenir, les équipes d'investisseurs soient composées d'hommes et de femmes à part égale. Vous écoutez toujours Droits et Libertés. Nous allons maintenant dans l'ancienne Allemagne de l'Est, comme de nombreux pays européens. L'Allemagne est confrontée à une société qui vieillit. Or, plus il y a de vieux dans un pays, et plus les besoins en personnel qualifié, médical et paramédical surtout, du personnel soignant, augmentent. Une prévision de l'Office fédéral des statistiques prévoit un déficit d'au moins 280 000 soignants d'ici 2049. Pour répondre à cette pénurie de soins qui menace, l'Allemagne recrute du personnel hospitalier dans d'autres pays, comme l'Inde ou le Vietnam par exemple. Tingok Lan Pham est justement originaire du nord du Vietnam. Elle est infirmière en soins intensifs dans l'hôpital universitaire de Rostock, dans le nord-est de l'Allemagne.
Quand je rentre du travail, je suis épuisée. Mes journées sont chargées, le travail est difficile. Mais quand j'y repense, je suis fière de moi parce que je m'acquitte bien de mes tâches. Surtout qu'ici, en Allemagne, les gens ne veulent pas faire ce métier. Et moi, je le fais bien.
Tingok Lan Pham travaille depuis 5 ans maintenant dans ce service. Sa licence vietnamienne d'infirmière n'était pas reconnue en Europe, alors elle a suivi une formation en Allemagne. Et maintenant, c'est elle qui accompagne les nouvelles arrivantes pour les aider dans leur intégration. Elle sait, pour l'avoir vécu elle-même, que tout ne va pas de soi quand on arrive du Vietnam en Allemagne, un pays totalement étranger.
Ça m'a choquée qu'on me demande de faire aussi des soins du corps, de laver les patients. Chez moi, on ne fait pas ça. Normalement, ce sont les proches des malades qui les lavent. Alors quand on m'a demandé de laver aussi les parties intimes des patients hommes, j'avais honte au début. Plus maintenant, parce que je fais ça depuis des années.
Hannes Nickel est l'un des patients qui est dans le service où travaille Tingok Lan Pham. Il est admiratif du travail des infirmières, dont sa guérison dépend aussi.
C'est un boulot difficile et on en manque. À vrai dire, chez nous, personne ne veut faire ce métier. Alors pourquoi ne pas former des étrangers ?
Pour remédier au manque de main-d'œuvre dans les soins hospitaliers, l'hôpital universitaire de Rostock a commencé dès 2018 à former des infirmières originaires du Vietnam. L'hôpital a développé tout un concept pour à la fois transmettre un contenu professionnel, des compétences aux élèves venus d'Asie, mais aussi pour faciliter leur intégration dans les services avec leurs futurs collègues. C'est ce qu'explique Karen Hartmann qui travaille à la formation de ces infirmières.
Nous veillons à ne pas trop surcharger nos employés allemands avec des collègues de trop de nationalités différentes. Nous voulons en effet gagner durablement du personnel soignant et qu'il continue d'être accepté par les collègues. C'est un grand défi pour nous tous.
Je parlais à l'instant d'infirmières parce que la grande majorité des candidates pour ce travail sont des femmes. Elles sont 25 environ, des Asiatiques pour la plupart, qui sont formées à Rostock chaque année. Thibichtin Nguyen est l'une d'elles.
Les Allemands parlent très vite. Il faut toujours que je me concentre pour échanger avec eux. Si je relâche ma concentration, je ne comprends plus rien.
Beaucoup souhaitent rester dans cet hôpital, même une fois leur formation terminée, car elles y bénéficient de tout un programme d'aide pour les démarches administratives, pour les aider dans certaines situations professionnelles spécifiques, et on leur fournit aussi un premier logement. Les infirmières stagiaires suivent également des cours d'allemand, matière indispensable dans leur quotidien auprès des patients, comme le dit ici Jana Leines, professeure d'allemand.
Les patients plus âgés sont difficiles à comprendre. Et les appels téléphoniques présentent aussi des difficultés, parce qu'au téléphone, on ne voit pas son interlocuteur. Donc on ne peut pas deviner grâce aux mimiques ou aux gestes. C'est pour ça qu'on s'entraîne beaucoup à ça.
Ce n'est pas un hasard si de nombreux Vietnamiens arrivent à Rostock. Cette ville est située dans l'ex-RDA, je vous le disais, et à l'époque de l'Allemagne de l'Est, jusqu'à 1500 Vietnamiens vivaient là avec des contrats de travail. La présence de la culture vietnamienne dans la ville est réelle. D'ailleurs, l'année dernière, une pagode bouddhiste a ouvert ses portes. Elle est située à quelques centaines de mètres seulement de l'immeuble dit du Tournesol, dans le quartier de Lichtenhagen, un endroit de sinistre mémoire. En août 1992, une foule de gens haineux y ont attaqué un foyer de travailleurs vietnamiens à coups de bombes incendiaires. C'était les pires attaques racistes en Allemagne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Wim Van Lam vit à Rostock depuis 1989. À l'époque de l'attaque, il vivait à quelques kilomètres seulement des lieux du drame.
Au début, on avait peur, c'est vrai. Mais là, on est à la deuxième, voire troisième génération qui vit en Allemagne. Donc oui, on se sent de nouveau chez nous en Allemagne et à Rostock.
En juin dernier, aux élections municipales, le parti d'extrême droite AFD est arrivé en tête à Rostock, pour la première fois. Tingo Klanpam remarque que des changements sont effectivement en train de s'opérer autour d'elle.
La politique, ça ne m'intéresse pas. Je me sens très bien ici. Mais si la situation venait à empirer, je penserais peut-être à déménager dans un endroit où les gens seraient plus ouverts.
Tingo Klanpam affirme qu'elle a rarement le mal du pays. Elle a d'ailleurs trouvé plusieurs amis allemands.
Quand on vit à l'étranger, il faut apprendre la langue. Je connais quelques personnes qui vivent ici depuis 20 ans et qui ne parlent pas un mot d'allemand. Je trouve ça très très dommage.
Ce mois-ci, ça fera donc 5 ans que Tingo Klanpam vit à Rostock. Elle va avoir désormais le droit de demander la nationalité allemande. Pour l'instant, elle envisage de rester et même de faire venir son petit ami qui, lui, vit toujours au Vietnam. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Klaus Deuse et Christine Bayer pour les sons. Si vous souhaitez podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur la plateforme de votre choix ou notre site internet dw.com/français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.